Voilà, assez brève. Et ensuite, nous étudierons un premier sujet. Si on a suffisamment de temps, on étudiera un deuxième sujet. Mais je veux dire tout de suite de quoi il s'agit. Dans la parachate de Shmini, qui commence au chapitre 9, 9 de Vaïkra, ça va au chapitre 12, il me semble. À la fin du chapitre 11, oui. Il y a, entre autres, deux sujets très différents, et au fond, l'étude devrait consister essentiellement à comprendre pourquoi ils sont reliés. D'abord, un récit du sacrifice d'intronisation des Kohanim après les 7 jours de préparation dont il est parlé à la fin de la paracha précédente. Et le titre de notre paracha, c'est Vayi Bayom HaShmini, et il arriva le 8e jour. Le pshat que nous avons d'abord étudié, c'est que ce 8e jour, c'est le lendemain de la semaine des 7 jours de préparation des Kohanim qui devait se préparer à commencer à officier dans le culte du tabernacle qui a préfiguré le temple de Jérusalem dans les 40 ans du désert. C'est assez caractéristique que le terme qui est employé par la Torah, un terme qui vous est familier, c'est le terme de Miluim. Les Miluim, c'était les... À l'armée maintenant, c'est les périodes de réserve, mais les périodes de... Comment dire d'entraînement, plus exactement. Asher mile etiado acharai. C'est une expression du Mikra, ça veut dire qu'il a été entraîné par moi. Entraîné dans les deux sens. Traîné et entraîné. Et c'est... la racine, étymologiquement, ça veut dire faire le plein de... Faire le plein d'une certaine expérience d'entraînement, pour prendre par analogie avec le français. Et donc, après cette semaine des Shivat Yemei à Milouim, les 7 jours de Milouim, vous voyez que les Kohanim étaient privilégiés, ils n'avaient que 7 jours de Milouim, c'est une période de préparation que l'on retrouvera pour une halakha très importante du jour de Kippour. Le grand prêtre était préparé pendant 7 jours, à la veille du jour de Kippour, était préparé à la ravoda qu'il devait réaliser. Et c'était au temps du deuxième temple, surtout. Vous savez qu'il y a eu, dans la période du deuxième temple, il y a eu un schisme entre ce que j'appellerais les tenants de la tradition du premier temple, et qui étaient les pharisiens, et d'autre part, la secte. Je l'appelle secte parce qu'elle a disparu, mais c'était eux qui avaient le pouvoir religieux. Et au temps du deuxième temple, c'était la secte des Sadducéens. Et les grands prêtres, la majorité des grands prêtres au temps du deuxième temple, étaient des Sadducéens, donc en fait des hérétiques. Je ne sais pas si vous vous rendez compte d'une situation extrêmement paradoxale. Toute la Torah qui nous est restée de ce temps-là, je vous parle du temps du deuxième royaume de Juda, il y a plus de 2000 ans, nous est transmise par les pharisiens, qui étaient une minorité opprimé d'ailleurs par le pouvoir sadducéen qui tenait le temple, à peu près ce qu'on pourrait dire depuis quelque temps ici en Israël, la Rabbanout Arachit, depuis quelque temps, pas plus. Et puis, c'est une situation assez analogue que nous sommes peut-être en train de vivre, enfin j'espère que pas, et où l'authenticité traditionnelle était minoritaire dans la société judéenne de l'époque. Et donc nous avons un modèle qui nous permet de savoir nous repérer dans des situations aussi paradoxales. Et alors, par crainte de ces hérésies qu'introduisaient les Sadducéens, surtout dans le culte du temple, lorsque les pharisiens en avaient le pouvoir, ils préparaient le grand prêtre, lorsque le grand prêtre était de leur parti, de telle sorte de le prévenir contre un risque de changer le rite. J'ouvre ici une petite parenthèse. On en a parlé à un des cours précédents avant Pessah à propos d'un tout autre sujet. Je veux une parenthèse pour que vous compreniez un peu la gravité de ce problème. Je ne sais pas si c'est dans ce cours, peut-être dans le cours en hébreu. L'ensemble de la Torah comporte 3 catégories de mitzvot. C'est un plan qui est très familier au Talmud, mais que surtout le Maharal a mis en évidence de manière systématique. Les mitzvot ben adam la havero, les mitzvot qui régissent les rapports d'autrui à autrui, qu'on appelle dans la culture moderne la morale. Les mitzvot qui régissent la vie spirituelle, ça se dit en hébreu, ben adam le atzmo, entre l'homme et l'identité humaine en lui. Et les mitzvot qui régissent les rapports entre la créature et le créateur, entre l'homme et Dieu, ben adam l'amakom, ce qu'on appelle dans la culture moderne la religion. Or, on apprend du Talmud des pharisiens, et à chaque fois que vous dites le Talmud, c'est-à-dire le Talmud des pharisiens, on ne sait ce qu'étaient les sadducéens que par des allusions qu'il y a dans le Talmud et dans les évangiles. Mais c'est le parti au pouvoir au temps du Deuxième Temple, dans la plupart du temps de l'époque du Deuxième Temple. Et la règle du Talmud, c'est que dans l'ordre des mitzvot, des rapports entre l'homme et autrui, c'est-à-dire la morale, la règle du tribunal doit être l'allègement de la loi. Parce que du point de vue de la nature des choses, les rapports sociaux sont terribles. Et donc il faut compenser la compensation que la Torah introduit du point de vue de la loi, c'est la koula. C'est clair en hébreu ? La koula, c'est pas tellement l'allègement de la loi. Vous savez, on ne peut pas traduire. Dès qu'on commence à étudier sérieusement en hébreu, le français est une belle langue, mais pas de traduction. La seule langue de traduction qu'on pourrait employer, ce serait l'anglais, mais comme je ne parle pas anglais, je ne l'emploie pas. L'anglais est une langue beaucoup plus apte à traduire l'hébreu que n'importe quelle autre langue européenne. Je vous dirai pourquoi tout de suite. Parce que lorsque la langue littéraire anglaise a été formulée sur des traductions de la Bible, sur les traductions anglaises de la Bible. La raison pour laquelle on trouve dans l'anglais littéraire une aisance à la traduction de l'hébreu qu'on ne trouve pas dans d'autres langues. Comme je vous dis souvent, moi quand je lis les psaumes en français, ça me rend protestant, parce que je proteste. Mais en tout cas, pour revenir, il y a que les protestants qui peuvent chanter les psaumes en français et ça passe. Mais essayez de chanter un psaume en français. Vous voulez que je vous donne un exemple? On n'a pas le temps. En tout cas, à pourri, on fera des exercices. Pour revenir au sujet, tout à l'heure, après cette parenthèse, j'en ouvre une toute petite pour expliquer qu'est-ce que c'est une koula. Et dans l'ordre des rapports entre l'homme et soi-même, c'est l'inverse. Dans la vie spirituelle, au contraire, la règle, c'est l'exigence la plus grande. Parce que l'homme, je vous traduis des formules du Talmud, est complaisant avec lui-même. Du point de vue naturel, par conséquent, la loi réintègre l'autre valeur, c'est-à-dire l'exigence. Est-ce que c'est clair? Je résume cela, la réalité de la société est une réalité terrible. Tout le monde sait cela et fait semblant de ne pas le savoir. Je vous cite une Mishnah, il faut prier pour la paix du royaume, parce que netesse, la crainte du royaume, c'est-à-dire de la police, d'ailleurs en grec c'est ça, la police c'est la cité, netesse la crainte de la police, enfin du royaume, ish etreu chaim belao, l'homme mangerait son prochain vivant, avalerait son prochain vivant, c'est-à-dire c'est resté dans le langage. Je t'aime tellement, je t'avalerai. Et pas trop d'amour. La règle de la société, c'est une règle impitoyable. Et donc la Torah réintègre la koula. Je ne donne pas d'exemple, parce que ça n'ouvrirait trop en tête, mais je crois que le principe est clair. Dans la vie spirituelle, c'est l'inverse. L'homme est complaisant pour lui-même. C'est dans sa nature. Et par conséquent, la Torah demande la plus grande exigence dans les mitzvot de la vie spirituelle. Mais dans les mitzvot concernant le rapport entre l'homme et Dieu, c'est ni l'allègement, ni l'exigence. C'est la loi comme elle est, de manière stricte. Si on change quoi que ce soit, tout est autre chose. Il n'y a qu'à voir comment de nuances de formulation, dans le passage des grandes catégories de la foi, de l'hébreu au grec, le christianisme est apparu. Et vous savez, qu'est-ce que ça veut dire que ça ressemble? Ça veut dire que c'est pas la même chose, ça veut dire que ça n'a rien à voir. Alors ça commence par des nuances, je vous donne souvent des exemples, mais je vous en donnerai un qui me semble le plus clair, et il y en a d'autres. L'expression « le fils de Dieu » est une expression authentiquement biblique, et en hébreu ça veut dire « la créature aimée du Créateur ». Et puis, en grec, ça devient « Dieu le Fils ». Rien à voir. Et vous voyez comment un petit changement dans les formulations liturgiques fonde autre chose. C'est clair ? On raconte qu'un des grands prêtres sadducéens a été condamné parce qu'il a voulu enjoliver le culte, il a voulu faire le sacrifice de Kippour avec des gants blancs, condamné à mort. Et pourtant c'est joli des gants blancs. puisque la soutane était blanche, le jour de Kippour, il a voulu ajouter les gants blancs. Et ce qui étudie la symbolique de tous les rites comprennent à quel point on ne peut rien changer. Je referme la parenthèse. Alors maintenant, je voudrais quand même expliquer qu'est-ce que c'est une coula. Ce qu'on traduit par un allègement de la loi. Et encore une fois, je cherche un terme en français, peut-être vous m'aiderez à le trouver tout à l'heure. Je vous cite une Mishnah des Pirkei Avot. Et Everat, les mitzvah kala kebahamura, chez Iata Yodea, matan scharan chez le mitzvot. Je vous traduis. Voilà ce que dit la Mishnah. Empresse-toi à une mitzvah légère, mitzvah kala kebahamura, comme une mitzvah lourde. Vous voyez, kula, humra, vous entendez en hébreu ? Parce que tu ne connais pas la rétribution des commandements. Tu ne sais pas si une mitzvah qui te paraît légère n'est pas très importante. Et parce qu'au fond, la seule règle que tu pourrais avoir, c'est la sanction. Et une mitzvah qui te paraît lourde, tu ne sais pas si au fond, elle a moins d'importance que la première. Bon, je marche sur des œufs de Pâques. Mais vous avez compris la difficulté de traduire. Hein? Alors, il faut bien comprendre, la coula, c'est pas du tout un allègement de la loi. C'est le fait que apparemment on croit que c'est une mitzvah plus facile à faire qu'une autre. Parce que chacun a son registre d'expérience des mitzvot, et donc de facilité apparente ou non. Et la seule règle qu'on pourrait avoir objective, c'est de mesurer la gravité du mitzvah par rapport à la sanction, mais comme on ne connaît pas la sanction, il vaut mieux ne pas jouer à essayer d'évaluer. Vous avez compris ? Alors, très souvent, on a affaire à une mitzvah extrêmement importante, et on croit que c'est une coula, ça veut dire un allègement de la loi, tout simplement parce que le privilège de la familiarité avec la mitzvah fait qu'elle est facile à accomplir apparemment. Je vous donne un exemple. Est-ce que c'est clair ce dont je parle là ? Okay. Je ne voudrais pas vous citer une autre Mishnah qui parle de ces problèmes, ça ferait une trop grande parenthèse. Mais je vous donnerai un petit exemple. On parle très souvent de Bet Shammai, qui serait dur dans la loi, et Bet Hillel, qui serait au contraire léger dans la loi. Et on ne se rend pas compte qu'en réalité c'est l'inverse. Dans la halakha selon Bet Shammai, on prend plus de précautions. Parce qu'on a affaire à des gens moins pieux que dans la Chasson Bet Shammai, où on prend moins de précautions. Je vais vous donner un exemple, mais ne tirez aucune conclusion pour la pratique de tous les jours. Demandez l'avis, la décision, aisez l'avis, de votre rabbin préféré, enfin familier, comme on dit, habituel. Voilà, la question du Mouktsé, le Shabbat. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est que le Mouktsé, le Shabbat ? Il y a des utilisation de biens qu'on s'interdit le Shabbat parce que ça risquerait de mener à la violation d'un commandement de Shabbat. Et bien Bet Shammai ne connaît pas le Mouktsé. Alors que Bet Hillel, c'est très important le Mouktsé. Alors Bet Hillel est Mahmir et apparemment Bet Shammai est Mekel. C'est pas du tout la définition vraie. Les hommes de la Shita de Bet Shammai sont tellement scrupuleux dans l'observance du Shabbat, qui n'ont pas besoin du Mouktsé. Alors que les hommes de Bet Hillel ont besoin d'un échafaudage qui s'appelle le Mouktsé. Et je veux dire jusqu'où ça va, le Mouktsé. C'est vraiment ça. Vous avez, dans un repas de Shabbat, vous avez mangé des amandes. Alors, les clipotes des amandes, on n'a pas le droit de les débarrasser, parce qu'on n'a pas le droit de débarrasser de la nappe quelque chose qui n'est pas nourriture. Alors, j'espère que vous avez en tout cas compris le principe. La Torah est plus coulante avec les gens plus scrupuleux. Et elle est plus scrupuleuse avec les gens plus coulants. Vous avez compris un peu le problème. Alors, quand j'ai dit qu'en général, dans le secteur des rapports dans la vie sociale, quand le Beddin a décidé, il choisit plutôt d'après la coula, c'est à cause de la nature du problème qu'il faut résoudre. C'est pas parce que on va se donner des aménagements avec la loi. Vous savez, c'est pas pour dire du mal des libéraux. Le terme de libéraux, ça peut être pris dans le sens positif. Mais enfin, quand ça veut dire prendre des libertés avec la loi, eh bien, c'est pas ça la coula. Je sais pas si c'est clair ce que j'ai dit. Okay. Bon, je referme la parenthèse. Alors, voilà ce qui se passe. Il y a un récit qu'au moment de l'intronisation, des Kohanim, donc le huitième jour après la semaine des Milouim de préparation à leur service, eh bien, c'est clair jusque-là, il est arrivé une catastrophe. Les fils de Aaron sont intervenus dans le rite en apportant ce que la Torah va appeler Eshzara, un feu étranger sur l'autel. Nous allons lire le texte tout à l'heure. Ça veut dire qu'ils ont fait un excès de zèle, si j'ose dire, et ils ont été frappés de mort. Le feu descendu du ciel les a foudroyés. Et donc, Aaron a été en deuil, puisqu'il s'agissait de leur fils. Et un homme en deuil ne peut pas réaliser le sacrifice comme il aurait dû être fait. Et donc, il y a une catastrophe qui va changer la course du temps, comme nous allons voir, qui est mis à l'indice Vayi Bayom HaShemini, parce qu'il y a eu un manquement au rite. Mais nous allons voir tout à l'heure quelle était la gravité de ce manquement. Et il y a donc un premier récit qu'on pourrait appeler la faute des fils d'Aaron suivie du deuil d'Aaron et du changement de rite dans le sacrifice. Et nous voyons là qu'il y a, vous me rappellerez que je lis ce verset, une controverse entre Moshe et Aaron après l'événement. Moshe demande à Aaron comment vous avez fait le sacrifice. Et Aaron dit, mais voilà comment on l'a fait. Voilà comment on l'a fait, c'est pas comme ça qu'il fallait le faire. Et Moïse qui répond, mais non, c'est pas comme ça qu'il fallait le faire. Et de quel sacrifice il s'agissait, nous allons voir un peu plus en détail tout à l'heure, mais du sacrifice d'intronisation de l'ensemble du culte des Kohanim. Vous voyez donc l'importance de l'événement. Deuxième partie de... Et nous allons, j'espère avoir le temps, de lire quelques citations du Malbim sur ce que disent les sources, tant dans le Talmud que dans le Midrash, de quelle nature était cette faute des enfants d'Aaron. Mais retenez, si vous voulez, formellement, c'est une sorte d'enthousiasme subjectif qui apporte sa propre flamme à la lumière de la foi. C'est pas mal dit, ça. Personne n'a pris des notes. Bon, vous avez compris l'idée. La motivation subjective était très positive. On pourrait se dire, mais pourquoi on est puni? Parce qu'il y a un surcroît de ferveur. C'est pourquoi j'ai tenu tout à l'heure à rappeler cette introduction. Dans les rapports entre l'homme et Dieu, on ne change rien. Parce que c'est entre nos mains. Et puis, deuxième partie de la paracha, les règles de la cacheroute, les règles des lois alimentaires, comme on dit en français, ça ne correspond pas très bien, mais qui font apparaître dans le livre de Vaïkra, qui en principe est l'ensemble des dispositions pour les Kohanim et les Lévites, pour la tribu de Lévi, c'est pourquoi d'ailleurs en français il s'appelle le Lévitique, qui fait apparaître une série de dispositions concernant tout Israël, comment manger cachère. Et donc, au fond, on a l'habitude d'étudier cette paracha en se posant la question, quel lien y a-t-il entre ces deux fêtes? Pourquoi c'est ensemble, dans la paracha des Shemini? L'habitude fait que, bon, c'est dans la même sidra. Et l'habitude fait qu'on on s'interroge pas, on s'étonne pas. Mais c'est très étonnant que les deux choses sont liées dans le texte de la Torah. Ce récit de la catastrophe du huitième jour, après la semaine des Milouim, et d'autre part, la nécessité de manger cachère. Quel rapport? Vous avez compris un peu la question qu'on va essayer de suivre, et j'espère arriver jusque-là et vous donner un autre exemple dans le livre de Bereshit, où des choses analogues vont se passer, où une allusion à la cacheroute relie un récit de catastrophe dans l'ordre des engendrements dans l'histoire. Alors, avant d'arriver à l'étude de détail, je voudrais quand même qu'on lise le texte du récit de la faute des enfants d'Aaron. Alors, vous allez prendre le chapitre 9 à la fin. Tout le chapitre 9, c'est la description du sacrifice qui devait être fait pour que la Shrina apparaisse sur l'autel. Je n'explique pas tout ça, j'y fais allusion simplement pour cadrer le récit, pour ceux qui sont déjà un peu dans les Inyanim. Et alors, verset 24. verset 24, le dernier verset du chapitre 9. Vatetse, vous y êtes? J'attends, tout le monde a le texte sous les yeux? Tafdal, ok? Vatetse esh minifne Hashem, et un feu sortit de devant Hashem, vatochal ala misbehar, et dévora, et embrasa, consuma, plus exactement, ce qui se trouvait sur l'autel, et tahola, c'est-à-dire l'holocauste, vetahalavim, et les graisses de la hola, vayar kolaham, et tout le peuple vit, vayaron, et ils chantèrent, vayiplou alpenehem, et ils se prosternèrent. Ça veut dire, c'est ce feu qui vient du ciel pour brûler le sacrifice, c'est le signe que Dieu agrée ce culte. Et voilà que les enfants d'Aaron vont apporter en plus un feu étranger au feu qui vient du ciel. Vous voyez, je pense que ce n'est pas la peine de trop définir ce qui se passe là. Il y a une confirmation par la transcendance, ça vient d'en haut, et voilà qu'on juge qu'il est nécessaire d'y apporter quelque chose de l'ordre de l'immanence. Et alors, catastrophe, on lit la suite. Vaïkrou ben Aaron, premier verset du chapitre 10, suivez sur le texte. Et les enfants d'Aaron prirent, qui étaient les enfants d'Aaron, Nadab et Abihu, Ishmartato, chacun son encensoir, Vaïtenu Bahen, Esh, et ils placèrent dans les encensoirs du feu, Vaïasimu Aleha Ktoret, ils placèrent sur le feu de l'encens, Vaïakribu Lifne Hashem, et en cela ils ont approché devant Hashem, Eshzara, un feu étranger, Asherotsi Vaotam, qui ne leur avait pas été prescrit. Cette expression Asherotsi Vaotam est très importante. Je vous donne un autre exemple, peut-être tout de suite. La gravité du fait que ça ne leur a pas été demandé. Ce n'est pas que la chose en soi, soit un mal en soi, mais dans le contexte où c'est opéré, ça détruit un certain ordre. Je veux dire, dans l'histoire de la philosophie, comment se retrouve ce problème. Est-ce que les idées vraies sont vraies parce que Dieu l'a décidé, ou est-ce que c'est parce qu'elles sont vraies que Dieu les considère comme vraies? C'est un problème difficile en philosophie. Et alors, il y a cette clause. C'est grave parce que ça ne fait pas partie de l'ordre de la loi. C'est parce que la loi a demandé. Autrement, ce n'est pas grave. Ceux qui ne sont pas soumis à la loi, on va les féliciter de faire ce que Nadab et Abihu ont fait. Mais Nadab et Abihu, qui sont soumis à la Torah, sont en faute parce qu'ils ont fait quelque chose que la Torah n'a pas demandé. Ils se sont substitués à la Torah. Et ça ne veut pas dire que ce qu'ils ont fait en soi est mal, puisque c'est bien. C'est bien de participer, de faire participer son enthousiasme au culte qui est demandé à Israël. Mais comme ce n'est pas le culte demandé à Israël, ça devient un mal. Si un non-Israël fait cela, on le félicite. Mais Israël n'a pas à le faire, parce qu'Israël n'a à faire que ce que la loi d'Israël lui demande. Je vous donne un exemple. J'analyserai pas, mais je vous le mets en mémoire. Le Talmud dit « Gadol metzuvé veronsé, michéno metzuvé veronsé ». Plus grand est celui qui a obligation de faire quelque chose et le fait, que celui qui fait la même chose alors qu'il n'en a pas l'obligation. On pourrait se dire, d'après notre culture générale, que c'est l'inverse. Celui qui de lui-même, de façon autonome, fait ce que la loi demande, alors que la loi ne lui demande pas, c'est ça la clause, est plus grand que celui qui fait que d'obéir, qui ne fait que son devoir, si vous voulez. Alors réfléchissez bien à cela. Le Talmud a une explication à ça. Qu'est-ce que ça veut dire plus grand? Vous voulez que je vous la donne peut-être? Okay. Bon, je vais vous la donner. Insistez un peu. Le Talmud dit, voilà, parce que la nature humaine est ainsi faite qu'il suffit que la loi demande quelque chose pour que l'instinct s'y oppose. Et donc on a plus de mérite quand on a reçu une obligation de le faire quand même que celui qui n'a pas reçu. Mais vous avez compris le truc. Ça se rattache d'ailleurs aussi à un problème extrêmement général. C'est que lorsque la Torah et l'instinct demandent la même chose, c'est suspect. À qui on obéit? Alors on est à l'aise que lorsque la Torah demande des choses contraires à l'instinct. Là on est tranquille. C'est la vertu. Vous voyez ce que je veux dire? Lorsque la nature et la vertu vont dans le même sens, c'est très suspect. L'exemple que j'ai l'habitude de donner, c'est le taram de la mitzvah de manger du poisson le vendredi soir. Alors, quel taram, de la mitzvah ou du poisson? C'est très difficile de manger le poisson du vendredi soir en tant que c'est le poisson du vendredi soir. Parce qu'en plus, il faut qu'il soit bon. Sinon, c'est pas le poisson du vendredi soir. Vous voyez, vous comprenez pourquoi, très rapidement dans l'histoire, nous avons une très longue histoire, plus de 3000 ans, les rabbins ont décidé, les mitzvot, même sans kavana, ça marche. Qui va être capable de mettre la kavana du poisson du vendredi soir? Tant qu'il est bon, le poisson. Il faut avoir un poisson pas bon, mais on ne prend pas un poisson pas bon le vendredi soir. Donc, quel kavana il a mis? Vous voyez que, alors soyez tranquille, mangez le poisson du vendredi soir sans kavana, à condition qu'il soit bon. Il y a énormément d'exemples de ce genre. Je donnais un exemple au niveau de la sémantique qui me séduit toujours, cet exemple. Il y a deux mots en hébreu qui se ressemblent beaucoup. C'est le mot de Ani, qui signifie humble, qui signifie pauvre, et le mot de Hanav, qui signifie humble. C'est presque le même mot. Alors c'est pourquoi la Gemara va dire, un homme n'est vraiment humble que s'il est riche. Parce que s'il est pauvre, on ne sait pas ce qu'il est. Est-ce qu'il est pauvre ou est-ce qu'il est humble? Vous avez compris? Le problème général, je le rappelle, est très important. C'est à quelles conditions la vertu est authentique. Alors nous n'avons qu'un critère. C'est lorsqu'elle s'oppose à l'instinct. Mais tant que la vertu s'oppose à l'instinct, ce n'est pas encore la vertu que le Créateur a demandé. La véritable kedusha, c'est quand la vertu est naturelle. Mais quand la vertu est naturelle, est-ce que c'est la vertu ou la nature? Vous avez compris le... Bon, ça c'est étudié, et à ma connaissance, le maître qui a le mieux présenté, c'est-à-dire le plus étudié, c'est Maïmonide dans les Shmoneh Prakim. Lorsqu'il se pose la question, qui a plus de mérite? Celui qui doit faire violence à sa nature pour faire le bien, ou celui qui fait le bien naturellement? Qui a plus de mérite? Et là, Maïmonide cite une controverse entre les philosophes et la Torah, et je vous laisse le soin de l'étudier dans le chapitre 4 des Shmoneh Prakim, et me semble vérifier. Ça doit être 4. Je reviens au sujet. Eh bien, voilà le verset 1 du chapitre 10, on le relit. Vaïkru ben Aaron, Nadav et Avihu, et Nadav et Avihu, les fils de Aaron, prirent Ish Martato, chacun son encensoir, Vaïtenu ba'en Esh, ils mirent dans l'encensoir du feu, Vaya Simon Ale Actoret, ils placèrent sur le feu de l'encens, Vaya Kribou Livne Hachem, et c'est moi qui ajoute, en cela, ils ont approché devant Dieu, Eshzara, un feu étranger, Asher Lotziva Otam, qui ne leur a pas été demandé, prescrit. Vous voyez en quoi c'est étranger? C'est dans le fait que ça ne leur a pas été prescrit. Ça veut dire que c'est une très belle chose qu'ils ont fait, mais ça n'a rien à voir avec ce que la Torah demande. Et la Torah a, elle, les raisons de savoir pourquoi elle demande ce qu'elle demande. J'ajouterai deux choses à cela. Je pourrais ajouter plusieurs thèmes, mais ça va nous prendre trop de temps. Au moins deux choses. Alors ça m'échappe. Vous voyez, il y a tellement de dimensions à ce problème. Un exemple, c'est l'explication du Kuzari sur la faute du Vaudor. Alors le Kuzari dit, le fait de se représenter par un symbole la transcendance de Dieu n'est pas en soi une faute. Il s'agit que d'une représentation par un symbole. C'est pas l'idolâtrie, c'est le vrai Dieu qu'on veut représenter. C'est pas l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est quand on prend une force du monde créé, qu'on l'érige en divinité. Le paganisme. Mais ce qu'ont fait les hommes de la faute du veau d'or, c'est qu'ils voulaient représenter symboliquement la manifestation de Dieu, du vrai. Et alors, où était leur faute? Ils ont choisi un symbole que la Torah n'a pas demandé. Et d'ailleurs, c'est un problème très vaste. Vous savez qu'il y a, dans ce sujet, l'essentiel de ce qu'on pourrait appeler la théologie juive concernant la représentation de la souveraineté de Dieu. Et que premièrement, c'est interdit d'avoir quelque représentation que ce soit. Et voilà que vous trouvez dans les synagogues des représentations. Et vous retrouvez, je vous donne la seule représentation cachère du point de vue de la Torah, c'est les lettres de l'alphabet hébraïque. parce que les lettres de l'alphabet hébraïque sont les éléments du récit, du discours de la Torah. C'est par les lettres de l'alphabet hébraïque que Dieu a parlé, à travers les lettres de l'alphabet hébraïque que Dieu a parlé, et qu'il a créé le monde, d'après notre Midrash. Vous remarquez que sur les deux tables, dans la plupart des synagogues, il y a Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Heva, Zekret, Yud. D'accord ? Voilà la seule symbolique qu'on autorise. Et ne croyez pas que c'est Stam, que c'est important comme sujet. C'est la parole qui a été la seule manifestation de la présence de Dieu dans le monde, autorisée par la Torah. Il y a un verset très clair. Utumna oritem, vous n'avez vu aucune figure. Zulatikol, seulement la voix. Donc c'est les lettres de l'alphabet, celles qui sont autorisées pour représenter la manifestation de Dieu dans le monde. Mais vous avez des synagogues, et ce n'est pas interdit, vous avez les signes du zodiaque, reliés aux 12 tribus. Vous suivez ? Bon, en conséquence, ça veut dire que ce n'est pas la chose en elle-même d'avoir pris le signe du zodiaque du temps qui était une faute. C'était le fait de l'avoir fait, alors que la Torah ne l'a pas demandé. Mais en fait, profondément leur faute, c'était que ce symbole, dans leur pensée, devait remplacer Moïse et non pas Dieu lui-même. Et que leur faute a été d'avoir divinisé Moïse. Et nous avons dans le récit la faute du Vaudor, toute la naissance du christianisme avant la lettre. L'adoration du médiateur et la soumission, bref. Vous voyez ce qu'on peut ajouter, en tout cas sur ce Lotiva Hashem, c'est extrêmement important. Bon, j'aurais d'autres thèmes à greffer là-dessus, mais je crois que ça suffit déjà pour montrer comment la Torah s'exprime pour indiquer quelle est la foi de nos Abba. Je crois que pour notre culture contemporaine, c'est ce que j'appellerais le subjectivisme ou l'immanentéisme dans l'approche de la Torah. Et vous n'avez aucune idée à quel point beaucoup d'élites juives contemporaines tombent dans ce défaut, en s'imaginant qu'ils embellissent la Torah par leur subjectivité. Alors quand ça colle avec ce que la Torah demande, c'est très bien, c'est un chidouche. Mais un chidouche, c'est un chidouche de quelque chose qui existe déjà. Un chinouille, un changement, ça c'est interdit. Le chidouche, on félicite, mais le chinouille, interdit. Quelle est la différence ? Le chidouche, c'est le renouvellement d'une valeur qui fait qu'elle reste elle-même. Tandis que le chinouille, c'est le changement de cette valeur, l'altération de cette valeur. Elle devient deuxième, shnia. Tandis que dans le chidouche, elle reste elle-même, echad. Et cela fait bien attention à cela. Chinouille, assour. Chidouche, tzarich. Et le Rafou va donner comme consigne, tzarich, les kadesh étaient chadash, mais les kadesh étaient kadosh, étaient kadosh. Mais le chinouille est interdit. Et très souvent, j'entends des gens qui citent le Rav Kook en mettant chinouille à la place de chidouche. Or, ça n'a rien à voir. Chidouche, c'est le temps de la lune. Chinouille, c'est le temps du soleil. Avec le chinouille, on devient autre. Avec le chidouche, on reste soi-même. Il y a deux choses dont il faut se garder. Le chinouille et refuser le chidouche. Celui qui refuse le chidouche reste préhistorique. En son temps, il avait raison, mais il est décalé anachronique. Je ne sais pas si c'est clair. Et celui qui fait un chinouille, eh bien, il y a une chance sur 1000 qu'il soit préfiguriste, comme on dit, préfiguration. Dans 3 siècles, ce sera peut-être comme ça. Alors, il est, dans tous les cas, anachronique, dans l'autre sens. Mais qui peut savoir si dans 3 siècles, ça sera comme ça, hein? Alors, vous voyez quelle est la règle. Asher tiva Hashem. Retenez bien cette expression, je crois qu'elle est. C'est un sujet pour lui-même. Énormément de dimensions d'enseignement talmudique viennent se rattacher à cela. Je continue. Verset 2. Va tetse esh milifne Hashem. Et un feu sorti. Vous voyez la même expression qui revient. Va tetse esh milifne Hashem. Un feu sorti de devant Hashem. Va tochalotam. Et les a dévorés. Va yamutu lifne Hashem. Et ils moururent devant Hashem. Et je continue encore quelques versets, mais je vous signale déjà qu'on va retrouver ce thème au début de la paracha de Aharemot, dans deux semaines. Dans la paracha de Aharemot, on va apprendre que, au fond, on va apprendre par liaison de texte, mais c'est déjà indiqué dans notre paracha. Enfin, indépendamment du Ezara, il y a des raisons profondes. Qu'est-ce qui les a menés à apporter ce Ezara? Et on va apprendre qu'ils étaient ivres, alors qu'il est interdit au Kohen de boire du vin. Et je pourrais vous faire toute une analyse sur l'ivresse du vin qui se fait prendre pour l'ivresse spirituelle. Il y a deux sortes d'ivresse du vin, celle qui mène à la joie de l'esprit et celle qui mène à, comment on dit en français, à être chicot, comme on dit en français. Ce n'est pas l'ivronnerie, ce n'est pas exactement ça. L'ébriété. Je ne voulais pas employer un mot grossier, mais à l'ébriété. Et alors, en particulier, beaucoup d'expressions, de versets dans le Shir HaShirim montrent cela. Dans le style de la Bible, l'ivresse du vin est d'ordre religieuse, mais elle risque d'être de l'ordre de l'ébriété. Mais donc, quoi qu'il en soit, c'est l'ivresse du vin positive. C'est la vraie ivresse de la joie que donne le vin, Yaïn et Samar les Vavénoches. Lorsqu'on a bu le vin de la joie, on a la joie de vivre. Et c'est le plus grand acte de foi que l'on peut faire devant le Créateur, être heureux de vivre. Et plus que toute autre ivresse, si j'ose dire, c'est l'ivresse du vin qui révèle cette joie de vivre authentique, religieusement authentique. Mais c'est interdit au Cohen parce qu'il risque de basculer dans cette faute. L'ivresse mène à la faute rituelle. Vous avez compris le volume ? Rattachez ça un peu en passant à Pourim, qu'il faut avoir l'expérience de la joie de l'ivresse jusqu'au moment où on risque de confondre le bien et le mal et s'arrêter là. Vous vous rappelez ? De confondre Mardoché et Aman, mais à ce moment-là, Ad Velo Ad Bichlan, comme on dit en hébreu. Et alors, retenez déjà ces deux fautes. Avoir apporté un feu étranger, avoir bu avant le service, et c'est pourquoi c'est interdit au Cohen de boire à partir de là. Vous l'aurez dans quelques versets suivants. Après tout cet épisode, Dieu se révèle à Aaron pour donner ce commandement. Les Kohanim ne devront pas boire de vin avant le service. Au point que, on ne dit pas la Birkat Kohanim à l'office de Mincha, parce qu'on a mangé à midi et qu'on a risqué de boire du vin. Et vous avez dû remarquer ça, on ne dit pas Birkat Kohanim ou Mincha. Même pas le jour de Kippour ou un jour de jeûne, pour pas qu'on apprenne, on risque de se tromper, qu'on pourrait dire Birkat Kohanim ou Mincha. Mais à Mincha de Kippour non plus, on ne dit pas Birkat Kohanim, de telle sorte de ne pas avoir l'air de soupçonner les Kohanim d'avoir bu du vin à Kippour, bien sûr. En tout cas, pour revenir au sujet, ça fait déjà deux explications qui nous sont données de cette faute. Nous verrons qu'il y en a deux autres. On va les voir tout à l'heure, j'ai mal vu. Une au moins dans le texte. Je continue. Attendez, est-ce que il faut... Vous allez prendre, je veux dire. Vous allez prendre le verset 8 du chapitre 10. Pour que vous lisiez ce que j'ai indiqué tout à l'heure, juste après cet épisode, la Torah va révéler que les Kohanim ne doivent pas boire de vin, d'où l'induction que c'était parce qu'ils avaient bu du vin qu'ils sont tombés dans la faute du Hezara, d'avoir apporté le feu étranger. Est-ce que c'est clair? Le pshat de leur faute, c'est le feu étranger. Mais ce qui a mené à la faute, ce qu'on appelle en hébreu Yeder Avera, ce qui mène à la transgression, ça avait été le vin. Alors on a ce siag. Vaïda Berachem et Laharon les mots, verset 8. Et Dieu dit à Aaron, en ces termes, Yain Veshechar, le vin et l'alcool, Altecht, tu ne boiras pas, Ata Obincha, Itach, toi et tes fils avec toi, Beboaché Meloel Moed, lorsque vous approcherez de la tente d'assignation du temple, Velotamutu, vous ne mourrez pas. Choukat Rolan et Dorotechem, loi, décret, permanent pour toute vos générations. Ou le Havdil ben Akad Akrodesh ben Achol, afin que vous puissiez, c'est moi qui traduis comme ça. Le texte hébreu dit pour pouvoir différencier le saint du profane, ou ben Atame ou ben Ataor, et l'impur du pur. Ou le Horot et ben Israël, et pour enseigner aux enfants d'Israël, et que la Hukim, tous les statuts, les décrets, Asher Diber Hashem Aleim Yad Moshe, que Dieu leur a transmis par l'entremise de Moïse. C'est-à-dire que le fait de boire du vin rend inapte non seulement au culte, mais à l'enseignement du culte. Parce que le vin est un véhicule d'une intoxication qui fait mélanger les valeurs. C'est clair, hein ? Vous avez bien compris. Bon, mais retenez en tout cas qu'il y a deux sortes de vins, le yayin à Messammeach et le yayin à Mishtaker. Comment dire les origines ? Mishtaker, non. Mais c'est pas celui qui ment. Avec un kaf, hein ? Yayin à Mishtaker. Le vin qui rend ébriété et le vin qui rend ivresse. Ivresse dans le sens positif. Oui, il y a l'idée de bonheur. Alors, nous allons étudier, avant d'aborder la référence dans le Malbim, vous allez me dire d'abord, est-ce que le premier épisode du récit de cette catastrophe est suffisamment clair ? Bon. Alors, nous allons étudier ce que les sources disent sur le titre de la paracha. Ça nous mènera un peu plus profondément sur notre question en général. Quel lien y a-t-il entre cette, récit, cette catastrophe et d'autre part la cachoute ? Des espèces, entre espèces interdites à la consommation et espèces permises à la consommation. C'est toute la paracha de Shemini. Je vous signale, parce que je l'ai oublié, qu'il s'agit de règnes entiers. Ce n'est pas des animaux totems que, par analogie avec le totémisme, on interdit de consommer à cause du respect qu'on doit au totem. Je vous dis ça parce que dans les explications universitaires concernant ce problème d'Akashrut, que les universitaires appellent les interdits alimentaires ou des choses de ce genre, on attache la plupart du temps des interdits de ce type au totémisme. C'est-à-dire que dans toute société, il y a des choses inconsommables parce qu'il y en a un respect pour l'ancêtre supposé. Par exemple, vous avez des sociétés où on ne mange pas de crocodile. C'est un animal sacré parce que. Parce qu'évidemment, on descend du crocodile. Et par le lémurien, ou par. Je ne sais plus comment on les appelle. J'ai oublié. C'est rare. Et. Ou alors, inversement, vous avez des animaux, au contraire, consommables, parce qu'on veut s'approprier les vertus de l'ancêtre. Ça, c'est des explications de type. Universitaire, je pense en particulier le premier livre pianiclé de ce genre que j'ai lu quand je faisais mes études, c'est La Légende Dorée de Fraser. Ça vous dit quelque chose, ce livre? Bon, on n'est pas de temps à perdre, moi non plus. Et Trataï Animaskirayon. Qu'est-ce que j'ai lu comme tout l'autre, mais aucune, et quand je faisais mes études universitaires, énorme. Bon. Enfin, je vous signale ça en passant pour vous dire que ça ne marche pas, ce type d'explication. Parce que c'est des classes entières d'êtres vivants, des règnes entiers d'êtres vivants. Et que lorsque la Torah ici énumère certains animaux, c'est parce que les critères risquent d'être confondus avec d'autres règnes. Alors, on a ici une table d'animaux qui seraient suspects. Enfin, vous comprenez l'idée. On ne saurait pas décider à quelle classe ils appartiennent, alors on les nomme individuellement. Bon, je ne me proposais pas à vous faire un cours sur la cachoute, ça serait la peine une fois qu'on étudie ça en détail. Quelle est la signification, la portée, disons, de signification de ces lois. En particulier, j'ai étudié une thèse structuraliste sur les lois de la Kashrout, qui a été mise en forme par un des anciens attachés culturels français à Tel Aviv, qui s'appelait Solers. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de son nom, il n'y a personne de Tel Aviv ici, c'est pas grave.